Alors que 8 personnes sur 10 dans le monde se revendiquent d'une religion, la pluralité culturelle et religieuse soulève des questionnements liés au fondement de l'identité dans un pays. Chaque pays, avec son histoire, ses valeurs et son régime politique, est irrémédiablement confronté à cette diversité en termes d'ethnie, de langue ou de croyance. D'une démocratie qui interroge son modèle de laïcité à un État autoritaire qui rejette ses minorités, nous vous emmenons à travers ce podcast dans un voyage au cœur des sociétés plurielles. D'un bout à l'autre du monde, nous essaierons de comprendre avec vous les enjeux et les problématiques liées à la pluralité culturelle et religieuse.
Bienvenue dans la deuxième partie du podcast consacré au pluralisme culturel et religieux en Espagne.
Retrouvez aujourd'hui le dernier voyage de la première saison du podcast « Voyage au cœur des sociétés plurielles ». Pour notre dernière escale, nous nous arrêtons en Espagne. Pays européen situé aux confins du continent et lien entre l'Atlantique et la Méditerranée, l'Espagne s'est construite au carrefour de multiples influences, et ce depuis l'Antiquité. Aujourd'hui marquée par une forte empreinte catholique, elle lie des entités culturelles pourtant hétérogènes grâce à un héritage séculaire. Dans ce podcast, vous comprendrez pourquoi malgré vos quelques notions d'espagnol, vous ne comprenez décidément rien d'une conversation en basque ou encore pourquoi une cathédrale se trouve en plein milieu de la grande mosquée de Cordoue. État moderne intégré, l'Espagne questionne perpétuellement son équilibre territorial et culturel entre forces centralisatrices et centrifuges. Les événements liés à l'indépendantisme catalan en 2017 en sont encore une preuve récente. Voyagez donc avec nous pour comprendre comment l'Espagne, pays somme toute familier mais pas moins complexe, gère cet équilibre récent entre composantes politiques, culturelles et religieuses variées. Dans cette deuxième partie, concentrons-nous sur l'histoire politique de l'Espagne du franquisme au système autonomique en place aujourd'hui. Entre la guerre d'Espagne qui prend fin en 1939 et le décès de Franco en 1975, la période franquiste est une page délicate de l'histoire du pays. Comment ce régime a-t-il muselé l'Espagne ?
Francisco Franco Bahamonde est issu d'une famille militaire galicienne catholique dont il reproduit l'idéologie conservatrice. Plus opportuniste qu'idéologue, il assoit son pouvoir sur l'armée, l'église et les forces politiques conservatrices telles que les carlistes, la Falange ou l'Opus Dei, qu'il réunit dans le Movimiento Nacional. Affublé du titre honorifique de caudillo, qui fait allusion à la Reconquista, il suspend la constitution républicaine et met en place un régime national catholique, unitaire, centralisé, répressif, illibéral, corporatiste et anticommuniste. Il signe par ailleurs un concordat avec l'Église catholique en 1953 qui rétablit les droits et privilèges de cette dernière en Espagne. Franco annihile toutes les forces culturelles et politiques libérales ou autonomistes. À ce titre, il révoque les statuts d'autonomie acquis sous la République et interdit tous les partis régionaux dont il persécute les responsables politiques, les forçant à l'exil ou les condamnant à l'emprisonnement. Le 26 avril 1937, il fait bombarder par la Luftwaffe nazie la ville de Guernica, capitale culturelle basque. Cet épisode est représenté par la célèbre œuvre de Pablo Picasso, aujourd'hui exposée au musée Reina Sofía à Madrid. La promotion des cultures régionales et l'utilisation des langues autres que l'espagnol sont interdites. Cette répression se poursuit pendant toute la dictature. Pourtant, les différents partis, mouvements ou syndicats se recomposent depuis l'exil ou dans la clandestinité. On assiste à partir des années 60 à une hausse des grèves et des manifestations. La grâce accordée par Franco aux militants basques condamnés à mort lors du procès de Burgos en 1970 suite à des manifestations est révélatrice. L'assassinat par ETA de l'amiral Carrero Blanco, numéro 2 du régime franquiste, le 20 décembre 1973, marque le début de la fin. Finalement, après près de 40 ans de dictature, le général Franco s'éteint le 20 novembre 1975.
Españoles, Franco a muerto.
Que s'est-il passé après sa mort ? Comment l'Espagne a-t-elle pris en charge sa transition politique et ainsi tourné la page du franquisme ?
La mort de Franco et la montée sur le trône de Juan Carlos I marquent le début de la transition démocratique. Franco avait prévu la restauration de la monarchie. En effet, Alfonso XIII n'avait pas abdiqué avant de s'exiler. Et en vertu de cela, Juan Carlos I, son petit-fils, devient roi d'Espagne, chef de l'État, et nomme Adolfo Suárez, un technocrate issu du régime, à la tête du gouvernement. Adolfo Suárez est le chef de l'Union chrétienne démocrate et il sera plus tard considéré comme l'un des pères de la transition. En 1976, les partis politiques sont légalisés. En 1977, las Cortes franquistas adoptent la loi pour la réforme politique qui rend caduques les institutions de tout le régime franquiste. Cette loi sera ultérieurement soumise à référendum populaire. Début 1977, les syndicats de gauche et le Parti communiste sont à leur tour légalisés. Et les élections générales de 1977, les premières élections démocratiques depuis 1936, donnent une forte légitimité à Adolfo Suárez et permettent la désignation d'une commission constitutionnelle en charge de rédiger la Carta Magna, la constitution espagnole de 1978. Celle-ci sera finalement approuvée par référendum par le peuple espagnol le 6 décembre 1978. Autre moment clé de la transition, le Parlement vote à la fin de l'année 1977 la Ley de Amnistía, la loi d'amnistie, qui garantira l'absence de poursuites contre les auteurs d'exactions durant le régime franquiste et la guerre civile. Cette loi, aujourd'hui largement questionnée et à l'époque conditionnée à l'adoption de la loi pour la réforme politique, est un des éléments ayant permis d'assurer l'intégration pacifique de la frange conservatrice de l'ancien régime, réunie principalement dans le parti Alianza Popular mené par Manuel Fraga, dignitaire du régime franquiste.
Après des dizaines d'années de centralisme autoritaire, l'Espagne opte pour un système autonomique qui tend vers un équilibre entre l'État central et les régions historiques. Pouvez-vous nous éclairer sur l'organisation et la répartition des compétences dans cet État autonomique, parfois surnommé semi-fédéral ?
La Constitution de 1978 confirme le régime de monarchie parlementaire et maintient Juan Carlos I de Borbón comme souverain. Celui-ci est d'ailleurs amené à incarner l'unité nationale et à défendre le cadre démocratique lors de son discours pendant la tentative du coup d'État du 23 février 1981 mené par Tejero, lieutenant-colonel de la Guardia Civil, nostalgique du régime franquiste au Parlement.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Dans son article 2, la Constitution assure le caractère indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, et reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et régions qui la composent et la solidarité entre elles. Cet article rompt avec 4 décennies de centralisation autoritaire et ouvre une nouvelle ère de négociation entre État central et régions. L'espagnol, le castellano, est la langue commune de tous les Espagnols, mais les autres langues parlées dans les communautés autonomes, dans les faits le basque, le catalan, le galicien et le valencien, sont reconnues et valorisées comme richesses patrimoniales. L'État autonomique est parfois appelé semi-fédéral. Il est le fruit de la délégation de compétences de l'État aux provinces qui décident de s'unir en communautés autonomes conformément au principe d'autogouvernement. Ces communautés autonomes sont régies par leur statut d'autonomie, loi organique, approuvée à majorité qualifiée par le Congrès des députés et les assemblées législatives locales. Elles définissent des compétences qu'elles prennent à leur charge et qui sont énumérées dans les articles 148 et 149 de la Constitution. On compte aujourd'hui 17 communautés autonomes, dont 2 insulaires, les îles Canaries, les îles Baléares, et 2 villes autonomes, Ceuta et Melilla. 5 communautés sont considérées comme historiques, le Pays Basque, la Navarre, la Catalogne, la Galice et l'Andalousie. En cas de conflit de compétences, le tribunal constitutionnel est chargé de résoudre les différends. Chaque communauté autonome dispose d'un parlement monocaméral, élu selon les mêmes modalités que les députés nationaux, et en charge de rédiger les lois autonomiques en vertu des compétences attribuées. Le parlement autonomique désigne également un président de gouvernement qui nomme les conseillers de gouvernement, organes exécutifs autonomiques. Le pouvoir judiciaire est quant à lui unique dans tout le pays. D'autres entités publiques existent et ont leurs propres compétences, les provinces et les municipalités.
Daniel, peux-tu nous dire comment le système électoral assure la représentation des différents courants régionalistes au niveau national ?
Le système électoral espagnol repose sur la loi organique du régime électoral général pour les élections générales et sur les lois électorales autonomiques pour les élections autonomiques. Comme nous l'avons précisé, l'Espagne est une monarchie parlementaire bicamérale. D'une part, le Congrès des députés, équivalent de l'Assemblée nationale française, et la Chambre basse. Y siègent 350 députés issus des 52 circonscriptions électorales et élus à la proportionnelle selon la loi d'Hondt. Chaque circonscription se voit attribuer un nombre de sièges au Parlement en fonction de son poids démographique. Parmi les principales forces politiques, on retient 2 types de partis. D'un côté, les partis nationaux qui sont présents dans toutes les circonscriptions, ou presque, Unidas Podemos, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, Ciudadanos, le Parti Populaire et Vox, et de l'autre, les partis autonomistes ou indépendantistes, de gauche ou de droite, et qui sont ancrés dans leurs régions qui leur sont propres. Le Partido Nacional Vasco, la droite basque, Bildu, la gauche basque, Junts per Catalunya, la droite catalane, et Esquerra Republicana Catalana, la gauche catalane. El Bloque Nacionalista Galego, la gauche galicienne, Coalición Canarias, Teruel Existe. Dès lors, on comprend pourquoi les partis régionaux ont autant de poids au Parlement et peuvent ainsi faire valoir leurs intérêts. Toujours minoritaires à l'échelle de l'Assemblée, ils jouent néanmoins le rôle de faiseurs de rois ou de facilitateurs lors de formations de coalitions. D'autre part, le Sénat, qui est la Chambre haute, et dont la majorité de ses membres est élue au suffrage universel direct dans les provinces, le reste étant par désignation de la part des parlements régionaux ou autonomiques.
Le modèle territorial des communautés autonomes a facilité l'implantation d'un régime démocratique. Malgré cela, deux nationalismes ont remis en cause cet équilibre sous deux formes distinctes. Les nationalismes basques et catalans, issus de deux territoires exerçant une force centrifuge dès la constitution originelle de l'Espagne, la couronne de Navarre et la couronne d'Aragon. Tout d'abord, Mathieu, revenons sur le nationalisme basque.
Le nationalisme basque s'est développé depuis le XIXe siècle dans quatre provinces, Guipuscoa, Biscaya, Álava et Navarra, toutes d'anciennes provinces issues du royaume de Pampelune. Dans la construction monarchique de l'Espagne et face à l'influence de la couronne de Castille, ces provinces ont longtemps défendu leur autonomie par la défense du système des fueros, garantissant l'application des normes locales et l'autonomie. A l'inverse, la couronne d'Aragon perdit ce privilège suite à la publication des décrets de Nueva Planta au début du XVIIIe siècle. Le système des fueros est pourtant abrogé dans les provinces concernées quelques mois après la restauration de la monarchie constitutionnelle et sous influence des réformistes libéraux en 1876. Toujours à la même période, la Biscaye, le Guipuscoa et une partie de la Lava s'industrialisent sous l'impulsion de grands groupes capitalistes. La région attire de nombreux travailleurs venus d'autres régions d'Espagne. Les idées ouvriéristes et parfois anticléricaux s'ancrent dans la culture sociale. Dans ce contexte, Sabino Arana Goiri théorise le concept d'identité basque autour de la race, caractérisée par la lignée, la comédie espagnole Ocho Apellidos Vascos, huit noms basques, est tirée de ces théories, le catholicisme, le régime foral, la ruralité, le territoire et bien sûr la langue, Isola, si particulière.
Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos.
Anchón también tiene muchos.
Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arquiñano. Y luego ya por parte de Amá, Igartiburu...
Arana Goiri fonde le Parti National Basque en 1895 et aujourd'hui toujours force politique majeure. Le parti se développe au Pays Basque jusqu'à devenir majoritaire. Grâce à cela, il réussit à obtenir l'adoption du statut d'autonomie lors de la Seconde République en octobre 1936. Comme nous l'avons vu, le régime franquiste interdit toute expression et tout parti régionaliste. Le PNV évolue donc en exil. Durant la dictature, en 1959, un autre mouvement émerge clandestinement, Euskadi eta Askatasuna, ou ETA, Pays Basque et Liberté, d'inspiration nationaliste et marxiste. À partir de cette date, le groupe réalise plusieurs attentats contre des représentants de l'État et des dignitaires. Le plus célèbre par son extrême violence symbolique est celui à la voiture piégée contre l'amiral Carrero Blanco, vice-président du gouvernement dont nous avons parlé tout à l'heure. Malgré la mort de Franco, les violences de ce groupe ne s'arrêtent pas, et au contraire, elles s'intensifient. Alors qu'une partie du groupe décide de participer au jeu démocratique et de déposer les armes, une autre frange décide de poursuivre le combat armé. En 1979, le Pays Basque et la Navarre obtiennent le régime foral. Inspiré des fueros, il donne une compétence de perception et de gestion tributaire supplémentaire à ces deux communautés. Pourtant, ETA reste intransigeante sur sa ligne nationaliste et marxiste. Durant les années 1980, la violence atteint son paroxysme. ETA poursuit ses attentats, enlèvements et extorsions par le port révolutionnaire sur le territoire espagnol, avec pour base arrière le Pays Basque français, lui-même secoué par l'organisation Iparretarac. Dans ce contexte, les services espagnols de renseignement spécialisés dans la contre-guérilla forment dans l'absolue clandestinité le GAL, groupe antiterroriste de libération, groupe paramilitaire chargé d'assassiner les combattants d'ETA en agissant en dehors de tout champ politique et légal.
Le reste de l'actualité maintenant avec ce terrible attentat terroriste en plein centre de Madrid. Huit gardes civils ont été tués, une trentaine de personnes blessées dans un attentat à la voiture piégée. L'ombre de l'ETA militaire plane, bien sûr, sur cet attentat qui n'a pas été revendiqué. Bruno Alves.
Une voiture piégée a explosé devant une caserne de la garde civile.
De 1959 à 2010, selon les chiffres du Monde, plus de 800 personnes sont assassinées par l'organisation, dont environ un tiers de civils. La désolidarisation des populations face à la violence, les divisions internes et la coopération policière entre la France et l'Espagne ont affaibli ETA, qui dépose les armes en 2011 et se dissout en 2018, mettant fin, non pas au nationalisme basque, mais à sa forme la plus radicale et violente.
À présent, intéressons-nous au nationalisme catalan. La question catalane est au cœur de l'actualité en 2017, lorsque Carlos Puigdemont, président de la communauté autonome de la Catalogne, tente de déclarer son indépendance.
La question catalane relève d'un différend institutionnel juridique et non pas politico-militaire. La Catalogne est issue de la couronne d'Aragon, puissance d'équilibre face à la couronne de Castille. Initialement dotée d'un régime de fueros, celle-ci s'en est vue privée suite au décret de Nueva Planta. Zone frontalière névralgique ouverte sur la Méditerranée, elle voit ses aspirations nationalistes émerger dans le contexte troublé de l'Espagne de la fin du XIXe siècle. À l'inverse du nationalisme basque initial conservateur, le nationalisme catalan ou catalanisme se veut plus libéral, comme en témoigne le texte fondateur des Bases de Manresa de 1892 en faveur d'une autonomie politique, fiscale et linguistique. Celle-ci se base sur deux dynamiques, l'une portée par les élites commerçantes et politiques en quête de libéralisme, alors que le système politique espagnol est verrouillé par les partis libéral et conservateurs, l'autre portée par le mouvement ouvrier au nom des principes d'autogestion. Au début du XIXe siècle, la Lliga Regionalista est la première force politique et obtient la création de la Mancomunitat, union de provinces autonomes en 1914. Peu à peu, la Lliga Regionalista se voit contestée pour sa complaisance vis-à-vis des gouvernements conservateurs. Elle a encouragé la répression violente de la semaine tragique à Barcelone en 1909, face aux barricades ouvrières, et de la monarchie. Face à elle se structure une force libérale républicaine, mais aussi et surtout une gauche républicaine, Esquerra Republicana Catalana, toujours active, qui remporte les élections en 1931 et obtient la création de la Generalitat, nouvelle entité autonome via l'approbation des statuts d'autonomie. Une fois de plus, la dictature franquiste interrompt ce processus. En 1977, la Generalitat est rétablie et son statut approuvé le 25 octobre 1979. Depuis les années 1980, et après avoir obtenu toutes les compétences autonomiques prévues par la Constitution, la Catalogne a essayé d'obtenir plus de latitude, notamment tributaire, réclamant un régime foral. La force de certains partis ou unions de partis comme la Convergencia y Unió a pu être un moyen pour cela, grâce à des concessions obtenues dans le cadre de coalitions. En 2006, un nouveau statut d'autonomie est approuvé, mais suite à un recours en inconstitutionnalité mené par les députés du Parti Populaire, héritier de l'Alianza Popular, le tribunal constitutionnel annule plusieurs dispositions de ce texte. Ces dispositions sont notamment liées à l'idée de nation catalane, au caractère préférentiel de la langue catalane sur l'espagnol et la mise en place d'une autorité de tutelle judiciaire dans la région. Cette rivalité institutionnelle bénéficie à Carlos Puigdemont, qui prend début 2016 la présidence de la Generalitat, communauté autonome catalane, et promet de mener la communauté vers l'indépendance. Dès la fin de l'année, il scelle avec d'autres partis politiques indépendantistes le pacte national pour le référendum. Un vote est demandé par Puigdemont. Il est refusé par le gouvernement central, mais approuvé par le Parlement de la Generalitat. Il a pourtant lieu le 1er octobre 2017. Tout cela se fait en dehors de tout cadre constitutionnel et en violation flagrante de l'ordre juridique établi et en absence de tout pacte politique avec le gouvernement central. L'abstention avoisine les 60%, mais les votants confirment à 90% leur volonté de voir la Catalogne indépendante sous forme de république. Ce vote est bien sûr immédiatement déclaré inconstitutionnel par le tribunal constitutionnel au motif qu'un référendum ne peut être soumis qu'à l'intégralité du peuple espagnol et suite à approbation par le Parlement national.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Suite au résultat, et malgré le discours du roi Felipe VI, Carlos Puigdemont déclare l'indépendance de la Catalogne le 10 octobre 2017. Suite à cela, Carlos Puigdemont et certains de ses collaborateurs fuient la justice en s'exilant dans d'autres pays européens, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, tandis que ceux qui restent en Espagne sont arrêtés, jugés, condamnés et emprisonnés. Le gouvernement central socialiste élu en 2018 gracie ses dirigeants qui ont été condamnés et emprisonnés dans le but de régler le conflit interne et d'entamer une nouvelle étape entre l'État central et la communauté autonome de Catalogne dirigée actuellement par Esquerra Republicana de Catalunya.
Merci Mathieu. Nous entrons désormais dans la dernière partie, dans laquelle nous allons aborder la construction du pluralisme religieux espagnol. Comment l'État espagnol contemporain a-t-il intégré les différentes confessions et trouvé un équilibre en prenant compte de l'influence culturelle majeure de l'Église catholique ?
Point de vue religieux, nous avons bien vu comment l'unification de plusieurs couronnes pour créer l'Espagne moderne a permis l'imposition du catholicisme comme religion officielle. Cette imposition a rendu l'Espagne relativement hermétique aux idées de la réforme protestante. Et bien que l'identité catholique reste aujourd'hui un marqueur fort de l'identité espagnole, l'anticléricalisme et la laïcité ont également eu leur place dans l'histoire la plus récente. Ainsi, la transition démocratique a soufflé un vent de liberté sur la société espagnole. La Movida, période de foisonnement culturel, symbolise ce besoin de renouveau iconoclaste, libéral, voire libertaire, qu'incarne d'ailleurs très bien Pedro Almodóvar. L'Espagne voit ainsi ses référentiels spirituels et culturels évoluer au gré de son entrée dans la mondialisation.
Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino.
En Espagne, l'article 16 de la Constitution garantit la liberté religieuse sans aucune restriction tant qu'elle ne nuit pas à l'ordre public. Ce même article est complété par la loi organique sur la liberté religieuse de 1980, qui prévoit la liberté de professer sa religion, de la pratiquer, de suivre les préceptes religieux, mais aussi de s'informer et d'informer sur les croyances religieuses, de recevoir ou de donner une instruction religieuse et de se réunir, manifester et enfin de constituer une association religieuse. Toutes les églises, confessions et communautés doivent cependant être inscrites auprès du ministère de la Justice dans le registre des entités religieuses afin de pouvoir disposer d'une personnalité juridique autonome. Bien qu'aconfessionnel, l'État espagnol n'est pas laïque. Il maintient en effet des relations privilégiées avec le Saint-Siège, avec lequel il a signé un accord en 1979 qui vaut traité international entre l'Espagne d'un côté et le Saint-Siège de l'autre. En réalité, ce traité, qui régit les relations entre l'Espagne et l'Église catholique, est composé de plusieurs accords. Il prévoit entre autres la reconnaissance du caractère sacré des églises, la protection des lieux de culte et le développement libre de paroisses, diocèses et de communautés, la reconnaissance du mariage canonique aux yeux de la loi civile, l'assistance économique de l'État espagnol au profit de l'Église sur son territoire et notamment via la Asignación Tributaria qui permet aux personnes de destiner un pourcentage de leurs impôts à l'Église en cochant une case sur leur déclaration d'impôts, mais aussi une offre d'éducation religieuse et la mise à disposition de l'armée de personnel ecclésiastique. Suite à des réclamations historiques de la part d'autres religions historiquement présentes en Espagne, en 1992, l'État espagnol a signé des accords de coopération avec les instances représentatives de trois autres confessions. Ces trois organisations sont la Fédération des entités religieuses évangéliques d'Espagne, la Fédération des communautés juives d'Espagne et la Commission islamique espagnole. Ces accords reprennent la structure des accords célébrés avec le Saint-Siège, dont le but est de rééquilibrer les liens de l'État avec les différentes confessions. Néanmoins, ces accords n'ont pas le statut de traité international, ce sont là des accords de droit interne. À noter que l'héritage de coexistence pacifique des trois religions du livre lors de la période médiévale d'Al-Andalus est l'un des éléments facilitateurs dans cette gouvernance religieuse interne. Enfin, le ministère de la Justice a également autorisé d'autres confessions à s'inscrire dans le registre d'entités religieuses. Ces quatre confessions, qui ont le statut donc d'entités religieuses, sont l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons, les Témoins de Jéhovah, mais également les entités bouddhistes et orthodoxes. Il faut préciser, par exemple, que tous les mariages célébrés par l'une de ces confessions selon leur propre rite sont reconnus par l'État civil espagnol et inscrits dans le droit civil.
Dans ce paysage, quelle est la relation des Espagnols avec la pratique religieuse aujourd'hui ?
À la différence de la France, l'Espagne dispose de nombreuses statistiques sur le fait religieux. Et ainsi, un sondage du Centre d'investigation sociologique de 2021 affirme que 37,1% des Espagnols se considèrent non-croyants, 58,8% croyants catholiques et 2,5% fidèles d'autres religions. 44% des Espagnols tout de même se considèrent croyants mais non pratiquants. Depuis 2000, la proportion de non-croyants et de non-pratiquants augmente et les instances ecclésiastiques reconnaissent leurs difficultés à fidéliser les croyants. À l'inverse, les églises évangéliques sont en pleine expansion, portées notamment par les diasporas latino-américaines. L'islam progresse également, principalement au sud du pays et sur la façade méditerranéenne, ainsi qu'à Ceuta et Melilla, portée par les communautés issues de l'immigration nord-africaine et d'Afrique subsaharienne.
Dans cet épisode, nous avons compris que l'Espagne s'est construite dans une recherche d'équilibre constant depuis la Reconquista, entre forces centralisatrices issues de Castille et centrifuges issues d'Aragon et de Navarre, ancrées dans le nord et le nord-ouest de la péninsule. Cette tension structurelle s'est matérialisée différemment au gré des problématiques conjoncturelles, succession dynastique, essor des idéologies libérales, développement du fédéralisme, structuration des classes ouvrières et paysannes, entre autres. Le système autonomique en vigueur depuis 1978 semble synthétiser l'ensemble des aspirations culturelles et territoriales des différentes composantes de la société espagnole. Pourtant, certains lui reprochent aujourd'hui d'être obsolète. Utile pour assurer une sortie pacifique du franquisme, il serait un fédéralisme inachevé ou un centralisme trop poussé. Ce constat est porté alors que certaines blessures restent toujours ouvertes, malgré des efforts notoires de reconnaissance des crimes du franquisme grâce à la loi de mémoire historique de 2007, toute la lumière n'a pas été faite à cause de la loi d'amnistie de 1977, toujours en vigueur. Aussi, les séquelles du terrorisme basque ou encore de l'attentat d'Al-Qaïda du 11 mars 2004 à Madrid restent douloureuses. Cet état de fait peut expliquer l'émergence de deux phénomènes. D'une part, des événements indépendantistes catalans en 2017, qui, bien que sans concrétisation, ont constitué un épisode sans précédent dans l'histoire espagnole. D'autre part, le parti d'extrême droite Vox, qui allie populisme et ultranationalisme, xénophobie et islamophobie, se consolide. Il compte aujourd'hui tout de même 52 sièges au Congrès des députés et fait partie du gouvernement régional des Castilla y León. Autant de défis que l'Espagne s'attelle à relever. Merci Mathieu.
Merci à vous deux.
Merci Daniel.
Avec plaisir.
Vous venez d'écouter le podcast « Voyage au cœur des sociétés plurielles » produit par l'Observatoire Pharos. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques, critiques ou commentaires par email à l'adresse contact@observatoirepharos.com. Vous pouvez également soutenir la poursuite de ce projet de podcast grâce à notre campagne de financement participatif disponible dans la description. Pour rester informé de la sortie des prochains épisodes et pour accéder à nos différents contenus relatifs au pluralisme culturel et religieux, rendez-vous sur notre site web www.observatoirepharos.com. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, et abonnez-vous à nos différentes lettres d'information. À très vite pour un nouveau voyage.